A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir Mercedes Serra, qui est fondatrice et présidente de BETC et présidente exécutive de Havas Worldwide, entre autres car Mercedes est ce que l'on peut appeler une hyperactive. Pendant cet entretien, nous allons parler de son parcours, bien entendu, mais de son regard sur ce parcours, de son regard sur le monde du travail. Mercedes Serra est également une militante pour l'égalité femmes-hommes et elle va nous donner son regard sur ce sujet. Et enfin, bien sûr, elle nous parlera de bien-être au travail. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Mercedes.
Bonjour Gaëlle.
Alors Mercedes, je vous présente très rapidement. Vous êtes née à Sabadell près de Barcelone et vous êtes arrivée en France à l'âge de 6 ans, et je précise sans parler un mot de français. Dans la période actuelle, je trouve que ce petit détail est loin d'être un détail. Vous êtes diplômée de HEC, de la Sorbonne. Vous commencez votre carrière en 82 chez Saatchi & Saatchi. Vous avez été successivement chef de pub, directrice de clientèle, directrice générale adjointe du groupe, et vous devenez directrice générale de l'agence en 90, agence que vous quittez en 95 pour créer le bébé que l'on connaît aujourd'hui, BETC, et vous êtes le E de BETC pour Babinet Era Dong Quang. Et en 2000, vous devenez présidente de l'agence. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Mercedes Serra, vous avez contribué à des petits budgets comme Danone, l'orientation sur la jeunesse pour Evian, la vision d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, McDonald's, venez comme vous êtes. Bref, vous êtes une sorte de légende et vous êtes une superstar de la com et j'espère que je vais faire rougir un petit peu, mais j'imagine que non, un modèle. En tout cas, à titre personnel, vous êtes l'un de mes modèles, puisque vous avez largement inspiré le personnage de mon dernier roman, Sois un homme, ma fille. Dans ce roman, l'idée, c'est de parler d'égalité femmes-hommes, et je sais que vous êtes une grande militante de ce sujet. Alors, pour faire court, je suis incroyablement heureux de vous parler, et ma première question, Mercedes, sera extrêmement simple. Pour faire court, je suis incroyablement heureux de vous parler, Mercedes, et ma première question sera toute simple. Quel regard portez-vous sur votre parcours, parcours incroyable s'il en est ?
Ben, je porte un regard assez simple. Je pense que j'ai eu de la chance de toute ma vie, finalement, la chance d'émigrer, la chance d'arriver en France, d'avoir à me battre, hein, parce que c'est aussi une chance par rapport à des gamins qui n'ont pas ce parcours-là, qui naissent dans des conditions peut-être plus faciles. Je suis pas sûre que c'est du coup après plus facile pour la vie. Et puis après, ma vie a toujours été chanceuse, puisque j'ai eu, grâce à la France, le droit de faire des études, des grandes études. Les études à HEC m'ont été payées, donc je suis très sensible à ça. Et après, la chance de tomber sur un métier qui, franchement, était presque à l'opposé de ce que j'avais imaginé de ma vie, puisque j'avais fait des études classiques de lettres, et même après avoir fait HEC, les études qui m'ont le plus importé, ce sont ces études de lettres. Donc, j'imaginais pas tellement faire carrière dans la pub. C'est vraiment une rencontre, c'est vraiment un stage qui m'a révélé que c'était là mon histoire.
Mais alors, vous parlez de chance, c'est, je trouve ça incroyablement modeste, mais vous avez aussi parlé de se battre. Est-ce que pour vous, avoir été une femme a été un handicap ou finalement le genre, c'est quelque chose qui ne vous a pas vraiment impacté ?
Non, ça a été, ça a été une chance d'être une femme, mais c'est ce que je pense. D'abord, je pense que les femmes, c'est formidable. Donc, je suis contente d'être née femme. Voilà, parce que je pense que c'est un parcours qui est plus dur que les hommes, donc plus intéressant.
Alors, quand vous dites plus dur, vous pensez à quoi, par exemple?
Je pense que enfant déjà, je me suis aperçue qu'on faisait pas exactement le même chemin aux femmes que aux hommes, qu'on leur destinait d'autres fonctions, d'autres chemins, d'autres parcours. Ça, je l'ai senti. Je l'ai senti parce que je le sentais chez ma maman, je le sentais auprès des autres femmes, et donc j'étais pas d'accord. Donc j'étais pas d'accord avec les chemins qu'on dessinait pour les femmes, et j'avais une vision des femmes plus haute que celle qui m'était donnée ou celle voilà. Donc je n'ai pas eu un écrasement parce que j'étais femme. J'étais rebelle parce que j'étais femme et que je n'étais pas d'accord et que j'avais pas décidé de laisser faire le monde autour de moi et de m'inventer un chemin qui peut-être désarrangeait mais qui ne m'aurait en aucune sorte convenu.
C'est fou parce que dans votre réponse, il y a ma prochaine question parce que je voulais vous demander si vous définissiez comme quelqu'un de rebelle depuis que vous êtes jeune. Et est-ce que ce côté rebelle, vous l'avez un petit peu déplacé puisque vous êtes devenue une femme, ce qu'on peut appeler une femme de pouvoir. Est-ce que vous êtes encore rebelle aujourd'hui ?
En tout cas, je pense que si ça dépend comment on définit la rébellion, parce que en même temps, je suis très positive, mais et je n'aime pas détruire, je n'aime pas tout ça, je n'aime que construire en fait dans la vie. Mais je pense que si la définition de rebelle, c'est de choisir ses propres chemins et de ne pas accepter que les clichés, ce que pense le monde entier, parce que c'est comme ça, que le conformisme nous habite tous, dans ce cas-là, oui, on peut me définir comme rebelle. Après, je pense que au-delà d'être rebelle, j'ai toujours eu un aspect militant. J'étais sûrement militante dès l'enfance, c'est-à-dire quand je voyais des choses injustes, j'avais le sens de la justice, donc ce qui était injuste me frappait, je grognais, je me laissais pas faire, je trouvais pas ça normal, j'étais déléguée de classe, et j'allais protester.
Pourquoi ne suis-je pas surpris ?
Je ne sais pas, mais j'étais comme ça quand j'étais petite, voilà.
Et aujourd'hui, quand vous, au-delà du parcours que vous avez fait, une des causes sur laquelle vous vous impliquez beaucoup, c'est l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce sujet ? Est-ce que vous trouvez que les choses vont dans le bon sens ? Ou est-ce que vous êtes toujours dans une forme de frustration, vous disant mais ça va pas assez vite ?
Alors, je suis optimiste parce que je suis optimiste par nature. Je crois toujours que ce qu'on pense de bien va arriver, sinon je pense que je me battrais avec moins d'énergie, moins de gaieté, donc j'y crois. Après, je trouve ça dur, et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux, on en est loin. Donc il faut être réaliste, et les chiffres nous aident, la compréhension du monde nous aide à être réaliste et à savoir que ce n'est pas gagné.
Oui, effectivement. Alors, chère Mercedes, comme vous êtes quand même la patronne d'une des plus grandes agences de communication, je vais faire appel à votre créativité. Imaginez, vous avez une baguette magique et vous pouvez changer une chose dans le monde de l'entreprise. Ce serait quoi et pourquoi ?
Moi, je changerais l'accès au pouvoir, parce que c'est mieux, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on a réussi, en se battant, à obtenir les conseils d'administration, il y ait des quotas. En ce moment, et grâce aussi à la loi, il y a des réflexions sur les viviers pour arriver à l'autorité suprême, au pouvoir. Et je pense que dans les COMEX, il faut mettre autant de filles que de garçons. Donc, je changerai tout de suite ça. C'est-à-dire, je mettrai la parité entre les filles et les garçons qui dirigent les entreprises.
Et c'est vrai que la loi, là, depuis quelques années, va plutôt dans le bon sens. Quel regard vous portez, vous, justement, alors là, en tant que dirigeante, sur l'index d'égalité femmes-hommes qui a été mis en place, et pour rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, vont taper au portefeuille des entreprises qui ne seraient pas au-dessus d'un indice de 78, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'en tant que patronne, là donc en tant que chef d'entreprise, vous trouvez que ça va dans une bonne direction ?
Moi, je crois beaucoup à la loi, je crois aux politiques, je pense que ce qui change le plus le monde, c'est la vision qu'ont certains politiques du monde de demain. Et donc, je pense que, oui, la loi sur les quotas en conseil d'administration, elle était forte. Le label égalité pour lequel je me suis battue avant l'index était un élément fort. même moi, quand je l'ai appliqué, parce que comme quand même, je m'étais battue pour, la première chose que j'ai fait, c'est d'appliquer à l'agence. Oui. Et ben, c'était pas facile.
Quel genre parce de difficulté?
Eh ben, on se rend pas compte qu'on n'a pas le même pourcentage de filles en haut. On se rend pas compte de tout ça. On est habitué. Donc, finalement, la factualisation, le fait de s'imposer, de regarder les données et de vérifier que tout est bien fait, ça vous permet d'avancer. Évidemment, je suis très favorable à l'index égalité, je suis même favorable à un index diversité.
Bien sûr.
Qui n'est pas encore lieu. Oui, parce que je pense que c'est là où le politique doit aider les entreprises, c'est dans leur fonction de régalienne, de dire finalement le monde auquel on croit, c'est un monde où il existe la parité entre hommes et femmes. C'est la moitié du monde, les femmes, plus de la moitié du monde, donc égalité, mais où on a intérêt à la diversité, et comment est-ce qu'on fait pour assurer ce à quoi on croit.
C'est vrai que le nouveau combat, enfin pas le nouveau, mais c'est la notion de diversité englobe beaucoup, beaucoup plus de données, donc peut-être qu'on aura un indice comme ça bientôt, donc militons pour ça. Alors, j'ai une question, Mercedes, que je n'ai jamais réussi à trancher en tant que militant à mon niveau de la cause égalité femmes-hommes. Est-ce qu'une femme ça dirige vraiment différemment d'un homme?
Alors, c'est très compliqué de répondre oui ou de... Je comprends que vous arriviez difficilement à trancher, parce que moi-même, c'est la même chose. Mais en fait, ce que je pense, c'est que Madame Badinter dirait que les hommes et les femmes, c'est pareil. Hein. Mais il y a eu une éducation qui a été différente. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Parce que ça fait des milliards d'années qu'on nous éduque différemment. Mmh. Donc, je pense qu'on a des traces de ça. Pourquoi les garçons ont-ils des problèmes avec le linge dans la famille? Normalement, ils sont normaux, les garçons doivent y arriver. Mais je pense qu'on a hérité. Pourquoi les mères savent faire 50 fois des gestes différents, importants? Je pense qu'on a une histoire... un héritage qui est lié à nos mamans, nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans, et que ça compte. Et donc, ça crée une forme de différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois que les entreprises dirigées par les femmes, c'est top.
Alors, vous savez, vous parlez à quelqu'un qui vient de mettre au sèche-linge son dernier, sa dernière lessive.
Donc, vous êtes formidable.
Comme quoi, les choses peuvent changer, tout de même.
Eh ben, je pense qu'il y a des hommes qui accèdent au talent des femmes aujourd'hui. C'est formidable.
Et inversement.
Parce
que moi, je crois beaucoup au fait qu'on est profondément complémentaires.
La mixité, elle est intéressante. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je pense qu'un jour, on sera moins complémentaires, on sera plus semblables.
C'est très
parce
vrai.
Parce que le jour où les hommes auront compris que les enfants, ça s'élève en faisant des choses quotidiennes, et le jour où les femmes comprendront qu'elles ont le droit de travailler sans être angoissées, comme ce n'est pas possible, ils se ressembleront plus. Donc, je ne pense pas qu'à l'origine, il y a une telle différence, et je ne pense pas que le fait de porter un enfant change tout dans la vie.
Et en fait, la différence, elle est limite sociétale, et on reproduit...
Elle est culturelle.
Oui, on reproduit les
culturelle.
Schémas. Bien sûr.
Et elle est historique aussi. Donc, normalement, on devrait mettre la passion des enfants chez les papas, et peut-être un peu plus de calme chez les mamans.
Mais c'est pour ça qu'il y a des chefs d'entreprise dont vous faites partie, mais je pense aussi à Céline Lazorte qui fait changer les lignes en imposant, alors je ne sais pas si c'est le cas chez BETC, mais chez Litchi, un homme qui vient d'avoir un enfant est obligé de prendre son congé paternité, il n'a pas le choix.
Alors, nous n'obligeons personne dans la vie, même pas les femmes, mais en gros, je me suis battue avec Céline pour obtenir ça. On est complètement aligné. On s'est battu pour payer au moins un mois et pour que le mois soit obligatoire. Et je pense qu'on a réussi en faisant pression à obtenir que maintenant ce soit admis. Maintenant, il faut qu'on se batte pour l'égalité des mois. Parce que il n'y a pas de raison qu'un garçon ne puisse pas s'arrêter pour s'occuper de ses enfants aussi longtemps qu'une femme.
Ce qui est le cas en Suède, d'ailleurs.
Ce qui est le cas en Suède.
Un système absolument extraordinaire.
Alors, tout à fait.
Je vais faire appel à votre côté sage, Mercedes. Quel conseil vous donneriez, alors la question est un petit peu tarte à la crème et pardonnez-moi, mais quel conseil donneriez-vous à une jeune femme, jeune diplômée d'HEC ou pas d'ailleurs, peu importe, qui commencerait sa carrière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs que vous auriez pu faire, qu'il n'y a pas à reproduire, ou des deux, trois trucs qui vous sembleraient importants d'avoir en tête?
La première chose, c'est je continuerai à lui dire que c'est mieux de gagner sa vie. C'est mieux d'être indépendante. C'est mieux d'avoir son argent. Que aujourd'hui, on sait à peu près à quel âge les femmes divorcent, les hommes. Et on sait que finalement, quand on est équilibré entre sa vie professionnelle et sa vie privée, on se protège mieux. Hein, toutes les difficultés des familles monoparentales où les femmes se retrouvent seules à élever des enfants avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, je pense qu'on est tous faits pour être un peu indépendants et pour pas être obligés de rester avec une personne parce qu'on
n'a pas le choix.
Voilà, on n'a pas le choix. Je pense d'ailleurs que ça a beaucoup changé et que les femmes ont plus le choix et que ça se voit. Et puis, la deuxième chose, c'est que je leur dirais que quand en tout cas les femmes sont comme moi, c'est-à-dire elles ont eu la chance de faire des études, de faire des choses passionnantes, etc. Le travail, c'est un épanouissement. Et donc, il faut se faire confiance dans cet épanouissement. Christine Lagarde le disait très bien. Elle disait, vous savez quoi, on a oublié de vous dire que ça fait plaisir quand même de travailler. Et donc, à l'extérieur. Et non pas pour un travail qui n'est pas rémunéré chez soi ou caché.
Bien sûr. Vous faites une transition formidable sur mon avant-dernière question. Est-ce que le bien-être au travail, qui est quand même le sujet de Happy Work, le podcast, même si quand je reçois quelqu'un comme vous, il y a des digressions, mais est-ce que le bien-être au travail, c'est un sujet qui vous parle, qui vous a parlé dans votre carrière, ou comme pour moi et ma génération, c'était quelque chose de secondaire jusqu'à très récemment?
Moi, le plaisir au travail était fondamental. Parce que je pense que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite si j'avais pas eu de plaisir au travail. Donc, moi, quand je suis arrivée au début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais contente qu'on me paye, ce qui est assez bizarre comme idée, quoi. Mais parce que c'était un peu normal quand même que les gens me donnent des sous. Mais j'aimais bien ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Et je trouve que il faut apprendre aux gens que dans la construction humaine, la construction de ses enfants, de sa famille ou de sa famille sans enfants, parce qu'on ne va pas obliger tout le monde à suivre le même chemin, elle est importante. Mais la construction, la structure que donne le travail est très importante aussi. Donc moi, je n'avais pas cette conception du bien-être au travail, parce que j'avais, au-delà de ce bien-être, j'avais la chance de trouver un grand plaisir. Et je trouve toujours un grand plaisir. Donc après, le bien-être est devenu... d'abord, je trouve que tout le monde n'est pas obligé d'être exactement comme moi. Bien sûr, il y a un enjeu pour un chef d'entreprise de faire en sorte qu'il y ait un bien-être dans sa propre entreprise.
Bien sûr.
Donc chez BETC, c'est très important. Donc on a travaillé beaucoup sur le bien-être... Parfois, d'ailleurs, on a été presque trop loin dans la considération que c'était important de donner un monde, par exemple, un univers de bureau qui soit beau, d'alimenter très correctement les gens, plus que correctement, c'est-à-dire comme on le fait à la maison, donc d'être très exigeant, de permettre aux gens d'accéder à des jardins partagés, de permettre aux gens d'accéder au sport.
Ouais,
dans le lieu de travail, on est allé très très loin.
Mais alors, dans tout ce que vous m'avez dit, merci, vous me faites penser à quelqu'un avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, qui est Claude Cohen. J'imagine que vous avez, dans vos carrières, croisé le chemin.
J'ai croisé Claude avec plaisir, d'ailleurs.
Et j'ai eu la même impression qu'en fait, vous vous amusez. Je me trompe
ou pas? Ah non, moi je m'amuse beaucoup.
C'est formidable.
Je m'amuse beaucoup. Non, je m'amuse beaucoup et j'apprécie beaucoup Claude. Ça ne m'étonne pas qu'elle dise aussi qu'elle passait un temps confortable et de bien-être à son
travail. Claude, c'est ma déesse.
Alors.
Non, mais c'est vrai, elle fait partie de cette génération de femmes qui ont déblayé des choses incroyables.
Elle est formidable.
Et aux côtés, quand même, de quelques légendes comme Patrick Lelay, Étienne Moujotte. Petite pensée
elle
pour Étienne.
Elle est formidable.
Oui, oui, extraordinaire. Mais comme vous, Mercedes. Donc, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Il me reste une toute dernière question, chère Mercedes. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra préféré qui vous vient à l'esprit de temps en temps? Et si oui, pourquoi?
Non, je suis pas tellement une fille de mantra, mais je peux vous dire un titre de magazine qui parlait de moi et que j'aimais bien. C'est une journaliste de Libération qui l'avait écrit. Elle avait écrit à propos de moi, La Dame de Fer, et elle avait écrit Fer, F-A-I-R-E.
Oh, génial.
Je me reconnais assez bien là-dedans.
Bah, c'est extraordinaire. Mercedes, mille merci pour ce moment que vous m'avez accordé. C'est un vrai cadeau pour moi, et je sais pour les auditeurs de Happy Work qui sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas quoi vous souhaiter, si ce n'est de continuer à vous amuser, de prendre autant de plaisir et de nous faire rêver aussi et de nous inspirer. Moi, je dirais, je ne sais pas si vous êtes une dame de fer, mais en tout cas, vous m'inspirez énormément. Donc, mille merci pour qui vous êtes, mille merci pour ce que vous faites, et j'espère à très bientôt, Mercedes. Bonne journée.
Un très grand merci. Au revoir.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.